RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Bonjour à tous. L'Autriche commémore aujourd'hui l'Anschluss, l'annexion du pays par l'Allemagne nazie, événement qui s'est produit il y a 80 ans, jour pour jour, le 12 mars 1938. L'Autriche a longtemps refusé de faire face à son histoire, se présentant comme une victime d'Hitler. La prise de conscience a été tardive, mais le pays a progressivement reconnu son rôle dans les crimes nazis. Où en est ce travail de mémoire aujourd'hui? La question se pose alors que le FPÖ, parti fondé par d'anciens nazis, est de retour au gouvernement et que certains doutent de sa volonté de se confronter à cette histoire. En Autriche, le défi de la mémoire, grand reportage signé Isorias.
Arrivé à Mauthausen, petit village de Haute-Autriche bordé par le Danube, ce matin la neige recouvre maisons, champs et routes, le sol ressemble à un immense tapis blanc. C'est ici que se dresse le lieu de mémoire le plus important du pays, le plus effroyable aussi, le camp de concentration de Mauthausen, ouvert il y a 80 ans. Il faut marcher quelques kilomètres pour y accéder, on l'aperçoit de loin avec ses pierres grises et son entrée lugubre. Bernhard Müller nous accueille.
1938 wurde eben in Mauthausen begonnen, das erste KZ auf österreichischem Boden zu errichten.
La construction du premier camp de concentration sur le sol autrichien a commencé ici à Mauthausen en 1938. Mais déjà à l'époque, les nazis avaient pour projet de construire d'autres camps annexes, ce qui a été fait. De 1938 à 1945, près de 200 000 personnes ont été détenues à Mauthausen, ou dans un de ces camps annexes. La moitié y ont été assassinées. Il y a donc eu environ 100 000 morts.
Verstorben bzw. ermordet worden. Also circa 100.000 Tote gab es.
Du camp originel, il reste les baraques où s'entassaient les prisonniers. En les visitant, on imagine aisément la promiscuité, le froid, les maladies. Quelques mètres plus loin, une grande place, c'était le QG des gardes nazis. Aujourd'hui, endroit de mémoire où des dizaines de monuments rendent hommage aux déportés assassinés. Depuis cette place, on aperçoit en contrebas un immense escalier niché au milieu d'une carrière de granit.
L'escalier que vous apercevez tout en bas, on le surnomme l'escalier de la mort. Il y a 186 marches. Les prisonniers devaient transporter de grosses pierres sur leur dos de la carrière jusqu'au camp. Il fallait donc gravir toutes ces marches. Beaucoup d'hommes mouraient directement sur cet escalier. Les prisonniers qui faisaient ce travail ne vivaient que quelques semaines. Pour les nazis, Mauthausen était un camp de travail, mais en réalité, c'était un camp d'extermination. L'extermination par le travail.
Nous quittons Mauthausen pour Vienne, où les persécutions commencent cette même année 1938, surtout à l'encontre des Juifs. Si beaucoup d'Autrichiens étaient pour l'Anschluss, c'est d'abord parce qu'ils souhaitaient réunir l'Autriche et l'Allemagne sous une même entité, une alliance naturelle à leurs yeux. L'antisémitisme est déjà fort dans le pays, en particulier à Vienne, mais c'est une fois que l'Anschluss est proclamé qu'il s'exprime dans toute sa violence, comme l'explique l'historienne Heider Marie Hull.
Dès que l'Anschluss a été officiel, les Juifs ont été attaqués. Ça a été la conséquence immédiate du rattachement de l'Autriche au Reich allemand. Mais les Juifs n'ont pas seulement été attaqués et humiliés par les nazis. Ils ont également été la cible des Autrichiens ordinaires. Je crois qu'aujourd'hui encore, c'est l'aspect le plus atroce et le plus honteux de l'Anschluss.
Les Autrichiens ont donc activement participé aux crimes nazis. Pourtant, au sortir de la guerre, une théorie s'impose dans le pays et au-delà. L'Autriche aurait été la victime d'Hitler. Cette théorie a pour but de rassembler les Autrichiens, d'unifier la nation. Dans cette perspective, plusieurs lois d'amnistie sont votées. Les anciens nazis sont réintégrés dans la société. C'est ainsi que le pays se reconstruit autour de ce roman national qui durera plusieurs décennies.
Si vous voulez connaître l'état d'esprit des Autrichiens durant les décennies d'après-guerre, il suffit de regarder les livres scolaires. On y apprend que le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale appartiennent à l'histoire de l'Allemagne. L'histoire de l'Autriche, elle, s'arrête en mars 1938 et reprend en avril 1945 avec la déclaration d'indépendance. La période entre ces deux dates n'appartient pas à l'histoire de l'Autriche, c'était aussi simple que ça. Et c'est dans cet état d'esprit que les élèves ont grandi durant plusieurs décennies.
Il faut attendre 1991 pour qu'un chancelier reconnaisse officiellement que les Autrichiens ont participé aux crimes nazis. C'est lors de cette décennie que le véritable travail de mémoire commence. Un fonds d'indemnisation des victimes du national-socialisme est créé en 1995. Nous nous rendons au siège de cette institution dans le 7e arrondissement viennois pour rencontrer celle qui la dirige, Anna Lessing, elle-même petite fille de déportée.
Le fonds a indemnisé 30 000 personnes, tous des survivants directs, non héritiers. Je dirais 95% des gens que j'ai vus étaient hyper heureux. Moi, je me trouvais vraiment humble parce que je n'avais pas pensé qu'il y aurait une telle réaction. Parce que l'idée qu'on m'avait ignorée pendant 60 ans pour ensuite me faire un virement de 5 000 euros et de dire « on est désolé pour ce qui s'est passé », moi, j'aurais réagi d'une autre manière. Vraiment, ils nous ont dit, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, j'ai enfin l'impression que mon histoire n'est pas oubliée.
Depuis les années 2000, des indemnités ont également été versées aux victimes pour compenser le vol de leurs biens pendant la guerre. De même, 12 000 œuvres d'art ont été rendues aux juifs spoliés ou à leurs descendants en vertu d'une loi qui, encore aujourd'hui, fait figure de modèle en Europe. Ces dernières années, l'Autriche a donc largement rattrapé son retard sur le devoir de mémoire et les réparations qu'il suppose. De quoi briser le cliché trop souvent utilisé d'un pays amnésique. Le chemin n'est pour autant pas terminé, estime Anna Lessing. Il reste encore des efforts à fournir pour faire évoluer les mentalités.
Beaucoup de fois, on critiquait les professeurs des lycées qu'ils ne faisaient pas assez de travail de mémoire, qu'ils ne disaient pas aux enfants que le racisme n'est pas bien, l'antisémitisme n'est pas bien, etc. Mais au fait, quand on commence à travailler sur l'Holocauste, les enfants, les étudiants sont âgés à peu près de 12, 13, 14 ans. Même si ça commence tôt, un enfant aujourd'hui ou un jeune étudiant a beaucoup de fois déjà des idées politiques. Et ça vient de la maison parentale. Et d'où est-ce que les parents peuvent savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de la politique? Les politiciens doivent très clairement déclarer que l'antisémitisme et le racisme ne sont pas bien. Sur cette base, les parents peuvent éduquer leurs enfants. Sur cette base, les éducateurs, les professeurs dans les lycées peuvent aider les enfants à comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
La responsabilité des politiques est grande dans le travail de mémoire. Or, il y a un parti qui est souvent critiqué pour l'absence d'engagement sur cette question ou pour sa position jugée ambiguë, le FPE. Ce parti d'extrême droite, fondé par d'anciens nazis dans les années 50, est de nouveau au gouvernement depuis décembre dernier. Pour répondre aux critiques, le FPE a annoncé la création d'une commission d'historiens pour prouver que le travail de mémoire a également cours au sein du parti. Le DO a accepté d'y participer. Bernhard Weidinger travaille dans cette organisation de recherche sur l'extrême droite.
Le FPE a clairement intérêt à se distancer publiquement de son histoire, de ses racines. Je suis plus sceptique sur leur volonté de s'en distancer d'un point de vue idéologique.
L'une des raisons de ce scepticisme, c'est que les Burschenschaften ne sont pas comprises dans l'exercice de cette commission historique. Ces corporations pan-germanistes, souvent extrêmes, sont pourtant très influentes au sein du FPE, surtout depuis que Heinz Christian Strache, l'actuel vice-chancelier, est à la tête du parti.
The role of the Burschenschaften in the party sharply increased under Strache.
L'influence des Burschenschaften au sein du FPE a nettement augmenté depuis que Heinz Christian Strache dirige le parti. parti. Je pense que l'on peut dire que cette influence grandissante ne facilite pas un réel travail de mémoire. Ce milieu des corporations pan-germanistes est en effet l'un de ceux où l'on observe une certaine nostalgie pour le national-socialisme. Il n'est pas rare d'y entendre par exemple que le 8 mai 45 n'est pas le jour de la libération, mais celui d'une défaite totale.
Un chiffre illustre le lien entre le FPÖ et les Burschenschaften. Plus d'un tiers des députés du parti sont membres de ces corporations très décriées. L'une d'entre elles a accepté de nous recevoir pour répondre aux accusations d'antisémitisme et de nostalgie du nazisme. Il s'agit de Libertas, dont le siège se trouve en plein cœur de Vienne. Nous arrivons lors d'une soirée entre membres. Bière à la main, tous en uniforme, ils célèbrent la culture germanique, des textes et des chansons qu'ils récitent assis autour d'une grande table. Au mur, de vieilles photographies témoignent de l'importance et de l'ancienneté de la confrérie. Peter Weiss est membre depuis plus de 50 ans.
La devise de l'ensemble des Burschenschaften, c'est « liberté, honneur, patrie ». Nous nous reconnaissons comme membres de la nation culturelle allemande que nous considérons comme notre patrie. Nous partageons au sein de cette nation une langue, une histoire et une origine commune. Concernant l'antisémitisme, comme nous sommes nombreux au sein des Burschenschaften, il se peut qu'il y ait occasionnellement quelqu'un d'antisémite. Mais les Burschenschaften, en tant que tels, ne sont pas des organisations antisémites.
La communauté juive dénonce depuis plusieurs années ce lien entre les Burschenschaften et le FPÖ. Cela prouve la vraie nature du parti à leurs yeux. Depuis que le FPÖ est au gouvernement, la plupart des instances de la communauté juive ont annoncé qu'elles boycotteraient tout rendez-vous mémoriel auquel participera le parti. C'est le cas des jeunes étudiants juifs d'Autriche qui se retrouvent ce matin dans leur local viennois. Noah Scher était étudiants en médecine.
Les membres du FPÖ ne sont pas ouvertement antisémites, car cela est puni par la loi et parce que ça ne serait pas acceptable aux yeux d'une majorité d'Autrichiens. Mais ils utilisent tous les codes de l'antisémitisme et ils ne se distancient pas vraiment, ce qui montre qu'ils ne sont pas réellement contre l'antisémitisme. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Voilà pourquoi je pense que le FPÖ doit être boycotté, qu'il ne doit pas travailler avec les organisations juives, car ce parti est toujours ambivalent vis-à-vis de l'histoire de l'Autriche et vis-à-vis du rôle que l'antisémitisme joue dans la société aujourd'hui.
Juste à côté, Sami Schroth acquiesce. Pour lui, le FPÖ joue sur les tabous de la société autrichienne.
Pour moi, le FPÖ a un discours qui reprend les codes de l'antisémitisme. Les Autrichiens, en particulier les jeunes, sont habitués à ce genre de discours parce que, bien souvent, ils l'ont entendu à la maison. Beaucoup d'Autrichiens ont dans leur famille des aînés qui ont été membres du parti nazi ou qui ont collaboré avec les nazis. Et je crois que le FPÖ joue sur cela, notamment auprès des jeunes qui n'ont pas toujours une culture politique et historique suffisante.
La jeune génération porte aujourd'hui la responsabilité du devoir de mémoire, d'où l'importance de l'éducation. Nous partons justement au cœur de Leopoldstadt, dans le quartier juif de la capitale. Maria Teresa Moritz y organise des visites guidées pour les élèves autrichiens.
Le projet a démarré en 2014 et depuis, on l'a beaucoup développé avec une collègue. L'idée de départ, c'était de trouver des lieux qui nous apprennent l'histoire des Juifs à Vienne. On voulait aussi sensibiliser les élèves à l'histoire des lieux qu'ils ont parfois l'habitude de fréquenter. In their own
surrounding. Partout dans ce quartier, l'ombre de la déportation plane. Il suffit de regarder le sol où des plaques dorées portent le nom des nombreux juifs envoyés au camp de concentration. Les élèves visitent ce quartier, photos d'archives en main. Ils marchent sur la petite place où il y a 80 ans, on forçait les juifs à nettoyer le sol en se moquant d'eux. Une manière très concrète d'apprendre l'histoire récente de leur pays.
Les enfants ne sont pas seulement à l'école, ils sont aussi à la maison. Une partie de leur connaissance vient de leur famille. Et je crois que c'est important d'équilibrer, qu'ils prennent conscience de ce qui s'est passé dans ces lieux qui les entourent. Bien sûr, l'histoire ne va pas se répéter. On n'aura pas la situation qu'il y a eu il y a 80 ans. Mais certains phénomènes peuvent revenir. Par exemple, l'exclusion de certaines personnes de la société. Parfois, on me demande si c'est vraiment nécessaire de parler de cette histoire. Et je réponds toujours oui.
Et la visite semble fonctionner auprès des élèves ce matin, tous très concentrés, parfois émus, à l'image d'Hassan Setinkaya.
Ça permet d'imaginer ce qu'il s'est passé. La visite m'a aidé à me représenter ce que les gens ont vraiment vécu à l'époque. Maintenant, je me rends beaucoup mieux compte des crimes terribles qui ont eu lieu ici.
À quelques rues de là, une autre initiative tente de faire vivre le travail de mémoire d'une manière un peu différente. Nous avons rendez-vous dans le cimetière juif de Währing, cimetière construit en 1784. Il est aujourd'hui fermé au public car laissé à l'abandon. Les arbres et les mauvaises herbes couvrent une large partie des 8000 tombes, toutes très abîmées, fendues et grisâtres. Jennifer Kickert vient nous accueillir. Elle dirige une association qui, depuis 2006, fait appel aux volontaires pour entretenir et rénover ce cimetière.
Avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Vienne comptait près de 200 000 membres. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7 000 environ. Ils n'ont donc pas l'argent suffisant pour s'occuper des très nombreux cimetières. Voilà pourquoi ils ont été laissés à l'abandon. Et c'est là que nous sommes intervenus. D'autres groupes et associations se sont également occupés des cimetières dans d'autres villes d'Autriche.
L'initiative est aujourd'hui soutenue financièrement par l'État et la ville de Vienne en vertu d'une loi de 2010. Une reconnaissance tardive, mais bienvenue pour ce patrimoine d'une richesse infinie.
Je vivais à Vienne depuis 30 ans déjà lorsque j'ai découvert ce cimetière. Quand j'ai parcouru ces allées pour la première fois, j'ai reconnu des noms que les Viennois connaissent car ils sont associés à des palais, à des personnalités de la musique ou de la littérature. Les personnes juives de Vienne qui sont enterrées ici font partie de notre histoire à tous. Ils ont fait de Vienne ce qu'elle est aujourd'hui. Cela représente une part si importante de l'histoire de Vienne que chacun devrait avoir la possibilité de venir ici, d'apprendre cette histoire. Les écoles devraient pouvoir visiter cet endroit. C'est aussi une manière d'apprendre aux jeunes élèves cette histoire et peut-être même de les faire participer.
Ce matin, la température frôle les moins 15 degrés, mais une dizaine de volontaires sont courageusement venus braver le froid pour arracher les mauvaises herbes, couper les branches des arbres, nettoyer et entretenir les tombes. Un signe de respect pour les 30 000 personnes enterrées dans ce cimetière, selon Katharina Kelava, une jeune étudiante qui vient pour la première fois.
Venir ici est pour moi une manière de témoigner mon respect envers la communauté juive qui a souffert, particulièrement en Autriche. Je crois qu'en venant ici, en participant à cette action bénévole, cela change notre approche de l'histoire. En tout cas, ça a changé la mienne. En arrivant ici, j'ai réalisé que si on ne faisait rien, rien ne changerait et que cet endroit finirait par disparaître.
Ces initiatives sont importantes, touchantes même pour les quelques survivants qui vivent encore à Vienne. Lucia Heilmann en est une. Âgée aujourd'hui de 88 ans, elle nous accueille dans son appartement où elle vit désormais seule. De 1938 à 1945, elle vivait déjà dans la capitale, persécutée parce que juive. Elle a connu les humiliations et les violences des nazis, parfois celles de ses compatriotes, mais a pu être cachée avec sa mère par un Autrichien, ami de la famille. Et c'est bien ça qu'elle préfère retenir.
Cet homme a tout fait pour empêcher qu'Hitler nous tue. Ce simple fait me donne la force de dire « il y a des hommes exemplaires ». Le fait que je sois vivante montre qu'il y avait aussi des Autrichiens remarquables à cette époque.
Même attitude positive lorsqu'elle évoque le travail de mémoire aujourd'hui. Il est loin d'être satisfaisant à ses yeux, mais elle reste optimiste.
En Autriche, le travail de mémoire peut gêner certaines personnes car il suppose de reconnaître une part de culpabilité. Il est parfois tentant de se libérer de cette gêne, ce qui menace le travail de mémoire. Mais la nécessité de se souvenir ne doit jamais s'arrêter. Et si j'arrive à faire comprendre, ne serait-ce qu'à un seul homme, en quoi ces crimes étaient abominables, alors je serais satisfaite.
En Autriche, le défi de la mémoire, un grand reportage signé Isorias, à la réalisation Nicolas Benita.